Merci pour tout ce que vous avez dit. C'est incroyable, vous allez le croire ou pas, mais hier, j'ai quelqu'un de l'église qui m'a appelé en me disant « je suis très angoissée parce que je porte le poids du monde ». Et qui m'a dit dans la discussion au téléphone, puis figure-toi qu'en plus en ce moment, je suis en train de lire dans la Bible le livre des Juges, chapitre 3. Et je trouve ça juste tellement incroyable combien Quentin et toi, vous m'avez donné encore des réponses pour lui répondre. Parce que je suis pas allée dans cette voie-là et je me suis dit, waouh, c'est juste trop beau. Ça me fait penser à cet ami qui va avoir un autre ami pour donner du pain à un troisième ami. Eh bien, j'étais l'ami du milieu. Et l'ami numéro 3, c'est vous, et je vais aller pouvoir revoir l'ami numéro 1. Donc merci, vraiment merci, je vous invite à prier. Seigneur, il est tellement bon de savoir que quand on a les regards plongés sur toi, on est rayonnant de joie. Et je crois que c'est vraiment ce qu'on a envie ensemble de reproclamer ce matin. Quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Seigneur, que la parole que nous allons ouvrir de manière un peu plus approfondie ou plus longue maintenant, soit vraiment cette occasion de savoir que c'est toi qui es l'auteur de notre joie. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-moi tes mots et que les miens de mots ne soient pas retenus, mais que ce soit que les tiens. Amen. Voilà. Dans notre groupe de maison, l'année 2025, on a étudié à partir de l'évangile de Jean, les sept signes de Jean, les sept miracles de Jean. C'est un outil que vous trouverez sur la plateforme évangile.net qui a été créé par deux auteurs, Raphaël Charrier et Jean Schott. Et ils se sont intéressés aux sept miracles que l'évangile de Jean relate. Et ces sept signes, Jean, l'apôtre Jean, nous explique pourquoi il les choisit. Il le dit à la toute fin de son livre. C'est le verset 30 et 31 de Jean 20. Il le dit, Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes. Ils ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et ça, c'est vraiment l'objectif central de Jean quand il écrit. Et quand il choisit les miracles tellement nombreux qu'il a dû voir, il a ça en tête. Le but de Jean, c'est vraiment de nous montrer la mission de Jésus, c'est sauver l'homme. Avec tout ce que peut être l'homme, tout ce qu'il peut vivre. Sauver l'homme. Sauver, mais de quoi? Comment? Quelles sont les caractéristiques de ce Jésus en qui des millions de personnes placent leur confiance? Alors voilà, ces sept signes, eh bien, ce sont sept miracles qui préparent à comprendre l'événement de la croix. Tout à l'heure, on va apprendre la scène. Et je crois que nos regards, dès maintenant, sont centrés là-dessus. Sept miracles, dont je suis en train de faire une série, c'est le numéro 1, du coup. Sept miracles qui brossent un portrait de Jésus en train de faire connaître la bonne nouvelle. Jésus qui est en train d'expliquer aux autres, par ses mots, mais aussi par son action. Jean les appelle les signes, parce que pour eux, derrière, il y a beaucoup qui est dit. Un signe, vous savez, c'est ce qui permet de caractériser quelque chose. C'est un peu comme une preuve ou ce par quoi on se distingue. C'est le signe annonciateur. Je sais pas, j'ai mis une image qui est un signe annonciateur. Et je pense que j'aurais pas besoin de vous expliquer quel signe vous allez voir. Non pas que cette dame a mangé trop de chocolat, mais qu'elle va avoir un enfant. Exactement. J'aimerais donc vous emmener dans cette série de messages, sept miracles qui vont nous aider à comprendre ce que signifie la foi. Et chaque fois, mes messages ont la même logique, on va découvrir ce que ce texte nous dit sur l'homme, on va découvrir ce que ce texte nous dit sur Jésus, et on va découvrir ce que ce texte nous dit sur la foi, c'est-à-dire la relation entre Jésus et l'homme. Et c'est comme ça que je vais avancer, et si vous le souhaitez, je continuerai cette série avec vous. Avec plaisir. On va donc lire l'évangile de Jean, chapitre 2, les versets 1 à 12. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres ». Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Enfin, je sais pas, moi je suis déjà en train de me dire comment ils ont fait pour le faire jusqu'au bout. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et puis le moins bon, après qu'on se soit enivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des signes miraculeux que fit Jésus, le premier pour Jean. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Voilà pour la lecture de ce texte. Le premier signe miraculeux relevé par Jean, eh bien, il se passe en plein milieu d'une fête de mariage. Et moi, je trouve ça extra. Parce que si vous pensez que Dieu est un Dieu austère et que vous avez une vision de Jésus proche de l'ermite, eh bien, vous vous trompez. À peine Jésus a-t-il choisi ses disciples qu'il les amène dans la ville de Cana pour fêter un mariage, pour rejoindre une fête de mariage. Probablement qu'elle a commencé quelques jours avant. En tout cas, Jésus a dû recevoir un carton d'invitation. Moi, je ne sais pas comment, mais il l'a eu. Et à cette fête, on y retrouve aussi sa mère, Marie, qui doit y être depuis quelques jours, elle, parce qu'elle a l'air d'être dans l'organisation de ce mariage. Alors, ceux qui ont marié leurs enfants, peut-être, ou se souviennent du leur, c'est effectivement de l'organisation. Si vous ne saviez pas, les mariages à l'époque de Jésus, eh bien, ça dure effectivement plusieurs jours. Et pas qu'un seul, voire même une nuit. Parce que c'est vrai qu'au Moyen-Orient, on aime faire la fête. On aime accueillir dignement, avec largesse. Et c'est vraiment une valeur centrale de cette culture. Ils en font même un point d'honneur quand il y a des invités, de les accueillir vraiment avec largesse. Alors, faire la fête, c'était important au temps de Jésus. Et faire la fête, ça reste toujours aussi important dans notre culture, il me semble. La fête fait partie de la vie. Je crois qu'on a 11 jours fériés, parce que ce sont des jours de fête. On parle même de culture de la fête. Pourquoi est-ce que c'est si important de faire la fête? On peut penser très large, mais on peut penser à nos fêtes de famille. Pourquoi c'est si important de faire la fête, à votre avis? Parce que l'être humain cherche simplement à être heureux. Je crois même que c'est son objectif ultime, enfin notre objectif ultime, être heureux, trouver le bonheur. Alors quoi de mieux qu'un mariage finalement pour symboliser ce désir d'être heureux dans la vie? Rien de mal là-dedans, bien au contraire. Mais voilà que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme c'était prévu. Parce qu'à Cana, en plein milieu de cette fête, les serviteurs s'aperçoivent qu'il n'y a plus de vin. Et ça, c'est assez dramatique. Franchement, les mariés de Cana ont un sérieux problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu en arriver là? Allez me chercher le responsable de cette énorme boulette quand même. Au milieu du mariage, plus de vin. Il n'y a plus de vin. Je ne suis pas en train de prôner le fait de boire. N'entendez pas ce que je n'ai pas dit. Il n'y a plus de vin, et pour le dire autrement, il n'y a plus de quoi faire la fête. Il n'y a plus de quoi être joyeux à ce mariage, parce que c'est ça la symbolique du vin, même dans la Bible. La joie de vivre, la convivialité, le partage, on ouvre une bonne bouteille de vin. Le vin, c'est l'élément festif par excellence. Et si vous invitez des amis et que vous faites la fête, vous ouvrez souvent une bouteille de vin et vous ne mettez pas qu'une carafe d'eau. Et à un mariage, tout le monde s'est dit, il faut quand même qu'il y ait du vin. Même nous, quand on a marié nos enfants, pourtant j'ai un mari qui ne boit pas, il a dit, il faut quand même qu'il y ait du vin. Maintenant, on ne sait pas trop le choisir parce qu'on ne boit pas. Mais vous voyez bien que le vin, c'est dans nos têtes l'élément festif. Je ne sais pas si vous manquez de vin, d'ailleurs. Je veux dire, je ne sais pas si vous manquez de quoi être joyeux. Parce que parfois dans nos vies, il arrive que le vin manque. Dans nos mariages, il arrive que le vin manque. Dans nos familles, il arrive que le vin manque. Dans notre société, il arrive que le vin manque. Dans nos relations humaines, quelles qu'elles soient, il arrive que le vin manque. Il arrive qu'il n'y ait plus de quoi se réjouir ensemble. Que les choses ne se passent pas comme on l'aurait souhaité. Et c'est donc la première chose que j'apprends sur l'homme. C'est qu'il cherche le bonheur. Que tout le monde a envie d'être malheureux. Je ne connais personne qui a dit « mon objectif de vie, c'est d'être malheureux ». Mais malgré tous nos efforts, malgré notre quête de bonheur, eh bien, cette dernière, elle reste souvent insatisfaisante, imparfaite. Et ce texte nous fait prendre conscience que nous pouvons rapidement manquer de vin dans notre quotidien, c'est-à-dire manquer de joie. Et je suis tellement reconnaissante à Quentin d'avoir cité ce verset « quand on tourne vers Dieu, les regards, nous sommes rayonnants de joie ». Parce que dans la vie, on peut manquer de joie. Même quand on est enfant, des fois aller à l'école, c'est pas drôle. On peut manquer de joie parce qu'on s'est fâché avec des amis, parce qu'on a des conflits qui apparaissent dans nos relations. Et ce qui est encore plus révélateur de cette quête, c'est que même après plusieurs jours passés à festoyer, je vous rappelle que le mariage y dure plusieurs jours, les invités ont toujours autant envie de vin. On a lu hein, tout à l'heure, t'as attendu que les gens soient pompettes pour donner ton meilleur vin, t'aurais dû faire le contraire. C'est-à-dire qu'on sait qu'à cette fête-là, tout le monde va boire un petit peu trop. Et Raphaël Charrier en déduit que les gens font la fête pour être heureux, mais que la fête ne répond pas à leurs attentes de bonheur. En fait, elle ne comble pas. C'est-à-dire que, quelles que soient les fêtes que nous faisons, ça ne nous comble pas forcément. Il semblerait que notre besoin soit tellement profond que notre soif de bonheur soit rarement étanchée par nos solutions humaines, en fait. Et c'est là que Jésus intervient. Alors, on y croit ou on n'y croit pas, mais regardez ce qui va se passer maintenant. C'est assez fou, hein. Il y a dans cette maison où on fait la fête 6 jars vides, c'est ce que nous disait le texte. 6 jars utilisés pour les rituels religieux, c'était normal dans toute famille juive. Aucun rapport avec la fête, allez-vous me dire? Eh bien si. Elles sont là en fait, disponibles parce que vides. Et Jésus va demander au serveur de les remplir d'eau jusqu'à ras-bord. Et c'est cette eau, nous l'avons lu, versée dans les jars qui était vide, qui va se transformer en vin d'excellence. Alors, il y a énormément de choses à dire sur ce miracle, beaucoup de choses à dire sur ce cadeau que Jésus va faire aux mariés, sans que les mariés le sachent d'ailleurs, vous l'avez remarqué. Eux n'ont rien demandé, ils n'ont rien vu. Trop occupés dans leur bonheur, tant mieux pour eux. Beaucoup de choses à dire sur ce cadeau. D'abord, c'est un cadeau d'une quantité quand même impressionnante. Chaque jarre représente, selon les commentateurs, entre 80 et 120 litres de vin, donc entre 500 et 700 litres de vin, qui vont être apportés à l'organisateur. Alors, je suis d'accord, il devait y avoir beaucoup de monde, hein, mais quand même, une quantité impressionnante. Et puis aussi une qualité impressionnante. À en croire la personne qui était chargée de l'intendance du repas, la fête dure depuis un certain temps, il est probable que certains invités soient au-delà des 0,5 g d'alcool, par litre de sang, et ça le laisse très perplexe, en fait. Un si bon vin pour une partie de la population qui ne va même pas en profiter, qui ne va même pas la savourer à sa juste valeur. C'est du gâchis. Quel illogisme. Quel cadeau, surtout. Quelle démesure. Parce que la grâce de Dieu est démesurée, en quantité et en qualité. C'est ça que ce texte m'apprend sur Jésus. Le signe qui le caractérise, puisqu'on parle des signes, le signe qui le caractérise et que Jean va mettre en avant dans ce texte, c'est celui de ce cadeau immérité, illogique, démesuré. Cet amour, il y a un chant qui dit amour extravagant, et je sais que certaines personnes n'aiment pas ce terme, mais extravagant, ça veut dire à la limite du bon sens, mais effectivement, l'amour de Dieu est à la limite du bon sens. Parce que des fois, on le gâche, et qu'il le sait. L'amour de Dieu est tout sauf raisonnable. Est-ce que je vous choque quand je dis ça? L'amour de Dieu est tout sauf raisonnable. Et je crois que l'organisateur du repas nous donne une des clés de ce passage, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, parce qu'il va voir le marié. Sans le savoir, il a découvert que la logique de Dieu n'est pas la logique de l'homme, que l'amour de Dieu n'est pas l'amour de l'homme. Que sa manière d'aimer dépasse ce qu'on peut en saisir, qu'il donne au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Il s'est donné lui-même et c'est ça qu'on va fêter. Voilà le signe. Le signe dont notre auteur veut nous faire prendre conscience, ce vin qui va couler à flot, 700 litres de qualité impressionnante. En fait, c'est le signe de la joie. C'est ce sang versé à la croix qui donne un vrai bonheur. Et je nous inviterai à prendre ce temps de scène dans cette reconnaissance énorme de la joie. Parce que c'est un cadeau de quantité et de qualité impressionnante. Jésus donne accès au bonheur. Il est le seul. Et si le monde cherche le bonheur, alors il doit trouver Jésus-Christ. Si autour de nous, les gens cherchent le bonheur, alors il est urgent qu'on leur dise qu'il faut qu'ils trouvent Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui comble et qui fait ce cadeau démesuré. Et oui, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. C'est absurde. Mais c'est la grâce. La grâce est illogique, mes amis. Elle est folie aux yeux des hommes. Le sacrifice sur la croix n'est pas compréhensible intellectuellement. Je me souviens de discussions avec des amis juifs qui refusaient ce sacrifice en disant « c'est totalement illogique que quelqu'un donne son fils. C'est de la barbarie. » Les Juifs crient au scandale. Les Grecs à l'absurdité et les Français qui se croient toujours... tirés de l'époque des Lumières, pensent toujours qu'ils sont très, très raisonnés et très intelligents. Disent, ouais, c'est totalement absurde, cette histoire-là. La grâce est illogique, mais quel cadeau pour ceux qui savent savourer à sa juste valeur le don de Dieu. Ceux qui arrivent à y voir un signe, une caractéristique de Jésus. C'est comme ça l'amour de Dieu, il s'accepte. Il s'accepte même si intellectuellement il paraît fou. Je réfléchissais à ce texte et je me disais que je pense qu'aucun des invités à cette fête a refusé de boire ce vin d'exception sous prétexte que c'était aberrant. Ouais, non, quand même, non. On va pas boire ça maintenant, c'est trop. C'est du gâchis. Je pense qu'aucun n'a dit ça, hein. Je pense qu'ils l'ont tous bu, en fait. Alors ne faites pas cette erreur avec l'amour de Dieu. Ne le refusez pas. Ne le refusez pas sous prétexte que c'est extravagant, illogique. Goûtez à ce que la Bible appelle la joie du salut. Même si ça paraît fou. Le vin qui a coulé de ses jarres a bluffé les invités par son excellence. Il était meilleur que le premier. Moi, ça m'émeut chaque fois que j'y repense à tout ça. Alors peut-être que vous êtes satisfaits de votre vie et heureusement, parce qu'il y a des choses qui vont. Mais la présence de Jésus dans votre vie, elle vous offrira un bonheur encore plus grand que le premier. Parfois, on l'oublie. Et à l'église de la Prairie, on fait les parcours alpha, et à chaque parcours alpha, je suis émerveillée de la manière dont quelqu'un qui découvre Christ est ému de compassion par l'amour de Dieu. Dans la manière dont il dit, mais c'est pas possible. Je me souviens d'une dame l'année dernière qui m'a dit, mais c'est pas possible. Mais toi, tu sais ça depuis tellement longtemps. Mais comment tu fais pour pouvoir vivre ça sans pleurer tous les jours? Mais toi, tu sais ça depuis tellement longtemps et moi, je ne le savais pas. C'est-à-dire que combien, tout à coup, cet amour se révèle au cœur, combien ça transforme la vue. Et on n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit d'oublier ce cadeau impressionnant, même quand les choses sont compliquées. Jésus veut combler notre profond besoin de bonheur et il veut le faire en nous offrant une solution bien supérieure à celle que nous bricolons. Une solution en quantité et en qualité sans aucune mesure. Et ma prière, elle est vraiment là, que dans les jours qui viennent pour vous, vous puissiez, avec les difficultés qui sont les vôtres, avec les anxiétés, les préoccupations, les doutes, le quotidien qui est le vôtre, vous souvenir de ce cadeau démesuré, illogique, extravagant, fou, absurde. Et pourtant, c'est ça la grâce. Alors avant de finir, je voudrais quand même parler de ce lien entre cet homme qui cherche le bonheur et ce Dieu qui offre une joie démesurée, encore plus grande. Je voudrais parler de cette foi-là, comment on fait pour se rejoindre. Et il y a un détail très important à saisir dans ce miracle, c'est que Jésus n'est pas le génie de la lampe. Nous, on aime bien ça. Génie, viens m'apporter ce dont j'ai besoin. Il ne suffit pas de frotter une lampe pour voir apparaître de nouvelles amphores remplies de vin. Ne voyez pas Jésus comme un magicien qui, d'un coup de baguette magique, solutionne le problème de la fête. Jésus transforme effectivement l'eau en vin, mais pour cela, il a besoin de nos jarres. Et ces jarres, elles étaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, présentes dans chaque maison juive pour les rituels de purification. Les Juifs les remplissaient d'eau pour se laver et se rendre purs pour s'approcher de Dieu. C'était le rituel religieux instauré dans l'Ancien Testament. On en lit beaucoup d'exemples de ces rituels qui s'effectuaient des fois avec les vêtements, sans les vêtements. On lavait les vêtements, on lavait les mains, on se lavait les mains et les pieds. C'est ce genre de jarre que Dieu va utiliser d'ailleurs pour mettre le vin, que les gens vont boire. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible pour ça. Et je crois que ces jarres, elles représentent un petit peu la loi sous l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, si on essaye de l'actualiser un peu, je crois qu'elle représente un peu, en quelque sorte, ce qu'on s'impose en termes de religion, en fait, hein, en termes de rituel, nos principes, voire peut-être même nos croyances par rapport à la manière dont on doit s'approcher de Dieu. Tout ce qu'on s'impose pour se dire qu'on peut avoir accès à Dieu. Elles sont la symbolique de tous les efforts que l'homme fait pour se sentir digne, pour mériter l'attention de Dieu, mériter son pardon. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que le texte me dit qu'elles sont vides. Jésus va demander de les remplir, elles sont vides. Vides. Vides, au sens théologique, c'est stérile. C'est faux, hein? Quelque chose de vide au niveau théologique, dans les termes qui sont utilisés, c'est quelque chose de stérile. Et là, moi, je trouve que ça devient très intéressant. Parce qu'avec le recul, on s'aperçoit que ce qui se joue symboliquement dans l'arrière-plan, finalement, de ce mariage, c'est qu'avoir la foi, c'est ça que Jésus est en train de leur dire, avoir la foi, c'est pas avoir le bon rituel au bon endroit. C'est pas accomplir nos traditions, c'est pas nos efforts, aussi bons et louables soient-ils. Ils peuvent pas nous sauver. Ils ne peuvent pas nous donner la joie du salut. Oui, et ça aussi c'est tellement bon, Jésus repart de nos jarres. Il aurait pu dire ça c'est pas bien, mais il repart de nos jarres. Il ne les méprise pas, mes amis. Et moi ça me rassure. Plus je travaille ces textes, plus ça me rassure sur ce Dieu incroyablement bon. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Il honore notre désir de le rencontrer. Mais c'est lui qui est à l'origine du miracle, en fait. Hein. Ce sont sa parole, remplissez les jarres. Son action, qui est invisible, mais son action qui change les choses. Ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos jarres. Ce miracle est un véritable signe de qui est Jésus, de ce qu'il est venu faire. L'eau changée en vin, c'est l'annonce de cette nouvelle alliance. C'est un chamboulement de logique théologique pour les gens de l'époque. Et il faut que ça reste pour nous, un chamboulement de logique entre la grâce et le mérite. Un chamboulement de compréhension de ma relation avec lui. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ n'est pas une question de loi à appliquer. Ça, c'était l'ancienne alliance et elle a montré qu'elle en était incapable. C'est une question de joie offerte de manière illogique et imméritée. La bonne nouvelle du salut, c'est ce cadeau de joie illogique et immérité. C'est ça la foi, c'est ce lien, c'est changer de lunettes, c'est comprendre que mes efforts n'y changeront pas, même si on a affaire. On l'a entendu dans le texte, hein. C'est Jésus qui va sous l'impulsion de sa mère demander aux serviteurs d'aller chercher les jarres vides, de les remplir et ensuite seulement il va les changer cette eau en vin. Donc oui, nos efforts ne nous sauvent pas, mais nous avons une part à faire. Et cette part s'appelle l'obéissance. Et parfois, obéir, c'est un vrai effort. La foi, c'est obéir à ce que Jésus nous demande de faire. Même si ça paraît illogique. Plus ça paraît illogique, plus ça doit être quelque chose de l'ordre de la grâce. Imaginez si les serviteurs avaient refusé de remplir les jarres d'eau. Parce qu'il y a quand même 700 litres à faire. Hein. Sous prétexte que c'était ridicule, épuisant, peut-être probablement inutile, bien, il n'y aurait pas eu de miracle, parce que Dieu ne force jamais la main. En fait, leur obéissance fait partie de l'accomplissement du miracle. Notre obéissance à ce que Jésus nous dit, à ce que Dieu nous dit, à ce que cette parole nous dit, notre obéissance, va permettre que le miracle, on puisse en être les témoins, en fait. Et trop souvent, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, est-ce que tu agis? Pourquoi tu agis pas? En fait, on n'a pas fait juste notre part, qui n'est pas celle du miracle, qui est celle de l'obéissance. Trop souvent, on voit les miracles de Dieu comme, on va appeler à la guérison, on va appeler au miracle, comme Dieu fait tout. Dieu fait tout ce que nous ne savons pas faire, ça c'est clair. Mais nous avons une part à faire, qui est l'heure de l'obéissance. Et des fois, avant de faire ce miracle, Dieu demande des choses aux hommes. Est-ce que tu es OK avec cette problématique-là? Est-ce que tu es OK avec ce problème de pardon? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là? Fais-moi confiance, montre-moi que tu me fais confiance, va remplir tes jarres. L'île n'est pas vide, n'attends pas que le vin arrive comme ça. Et moi, j'aime cette notion-là parce que Dieu me demande d'apporter mes jarres. Lui, il va les remplir à ras-bord. Et ça, c'est une promesse. Sans son action, l'eau reste de l'eau. Sans le sacrifice de Jésus, mes efforts sont stériles. Ce ne sont pas eux qui me sauvent. Sans l'œuvre de Christ, la situation reste identique. Le vin finira toujours par manquer. Mes traditions, mes rituels, mes efforts, même louables et authentiques, n'y changeront rien. Lui seul transforme les choses. Lui seul remet la joie où il n'y en a plus. La paix, comme on disait au début de ce culte. Et il est là, le miracle. C'est la joie que vous ressentirez dans votre cœur qui sera le signe de l'action de Dieu, bien au-delà du reste. Alors oui, je voulais conclure avec cette notion d'obéissance. D'obéissance en toute confiance, parce que c'est ça qu'on apprend, c'est cette première caractéristique que l'évangéliste Jean nous donne. Et ce qui est beau, c'est que c'est la mère de Jésus qui nous montre l'exemple. Je trouve que c'est tellement, tellement symbolique, c'est tellement beau de sa propre soumission à son fils. Faites ce qu'il vous dira. C'est comme si elle reconnaît, c'est déjà, elle le savait. Il est dit de Marie qu'elle repassait toutes ces choses dans son cœur, et je pense qu'elle avait saisi quelque chose de l'ordre de ce ministère de son fils, et c'est comme si elle reconnaissait qu'elle était soumise à lui et qu'elle est la première à nous le montrer, la première à montrer que c'est lui la solution. Et Marie va faire deux choses que je vous invite à faire quand il vous manquera du vin. Elle va exposer la situation à Jésus. Ils n'ont plus de vin. Et puis elle invite à mettre en pratique ses paroles. Ils n'ont plus de vin, faites ce qu'il vous dira. N'attendez pas un miracle dans votre vie pour croire. Croyez pour vivre le miracle. C'est l'inverse. N'attendez pas un miracle en disant « j'attends ce miracle pour croire ». Croyez pour vivre le miracle. Les miracles ne créent pas la foi. Ils la confirment. On a lu ce texte et ça finissait par la phrase « ses disciples crurent en lui ». Mais mes amis, ils croyaient déjà, sinon ils n'auraient pas été là avec lui. Je crois vraiment qu'en réalité, ils avaient déjà accepté de tout quitter pour suivre Jésus et que ce miracle a boosté leur foi. Quelque part, au début de ce ministère avec Jésus, Jésus leur a dit « vous avez fait le bon choix » et que ça les a boostés. Et quand on vit des miracles, effectivement, ça booste notre foi. Que ce soit pour nos vies ou la vie de ceux qui sont autour de nous, ça booste notre foi, ça nous conforte dans nos choix et ça nous encourage. Et je crois que le but, il est là. Et l'apôtre Paul le dit, l'apôtre Jacques le dit, tout le monde le dit. Ce ne sont pas les miracles qui créent la foi. Les miracles, ils encouragent notre foi. Plus vous avez confiance en Dieu, plus vous le verrez agir, en fait, parce qu'on passe à côté de miracles. Plus vous allez avoir confiance en lui, plus vous allez expérimenter que vous pouvez avoir confiance en lui. Et plus vous allez avoir confiance, vous voyez ce cercle, il est là, quoi. Et plus vous aurez confiance, plus vous allez croire. Et plus vous allez croire, plus vous allez voir. Et plus vous allez voir, plus vous allez croire. Vous savez, ce miracle, il n'était pas destiné aux mariés. Il était destiné aux disciples, je crois vraiment. Les mariés, ils ont été les premiers bénéficiaires. Ils ont entendu, à mon avis, ils en ont parlé toute leur vie. Tu te souviens, le jour de notre mariage, ce truc de ouf qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont cherché à rencontrer Jésus? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de cette information. Est-ce qu'ils ont su, je pense que oui, que Jésus était l'auteur du miracle, mais est-ce qu'ils se sont demandé, tiens, mais comment ça se fait qu'il a fait ça? Je ne sais pas. Ce miracle était pour les disciples, pour les encourager. Alors, soyez encouragés, parce que nous sommes les invités à ce mariage. Et puis aller jusqu'au bout de la démarche, inviter Jésus à vos fêtes. Invitez-le vraiment dans vos familles, dans vos couples, dans vos relations, dans votre travail. Faites-en un invité d'honneur, envoyez-lui votre carton d'invitation. Parce qu'imaginez, s'il n'avait pas été là, ça aurait été un fiasco, et là aussi tout le monde en aurait parlé jusqu'au bout de leur vie. Mes amis, ne retournons pas à nos traditions stériles. Vraiment. Ne retournons pas à notre métro boulot dodo, rempli d'inquiétude pour demain, d'amertume pour hier. Ne vous contentez pas d'une connaissance sur Jésus. Ne vous contentez pas de le croire, donnez-lui vos jarres. Donnez-lui vos jarres, vivez pleinement la joie du salut dans le quotidien qui est le vôtre, même quand le vin vient à manquer. C'est vraiment lui qui fait toute la différence. Et il l'a fait en se donnant sur la croix. Et oui, le vin dont on a parlé tout ce moment-là, tout ce temps-là, c'est vraiment cette symbolique de ce sang versé sur la croix. Et je trouve que effectivement, ça nous amène tellement à ce temps de scène qu'on va vivre maintenant. L'homme cherche le bonheur et Dieu le sait. Dieu est celui qui donne un bonheur en abondance, de manière quantitative et qualitative démesurée. À moi de lui donner mes jarres vides pour qu'elles ne soient plus stériles, pour retrouver la joie du salut. Alors, vraiment, on va prendre ce temps, je vais laisser l'équipe nous préparer pour ce temps de scène. Enfin, je voudrais juste introduire par ça. C'est cet amour en premier, on a dit tellement de choses ce matin. C'est cet amour en premier, démesuré, qui nous est offert. C'est cette coupe, c'est Paul qui dit ça, la coupe de la nouvelle alliance. Ça tombe bien, l'alliance, on en donne une dans les mariages. C'est cette nouvelle alliance qui est scellée par son sang. C'est cette joie du salut qui nous est donnée. Et je crois vraiment que prendre la scène, c'est être reconnaissant dans les deux sens du terme. Dire merci et reconnaître que Dieu a tout fait. Alors, si vous n'en étiez pas convaincu et que vous êtes bouleversé par cet amour, prenez cette scène. Parce que c'est la seule chose qu'elle signifie. Ne la prenez pas pour faire comme tout le monde, prenez-la. Parce que Dieu veut qu'on la prenne tous. Prenez-la en disant, je suis pas parfait, il y a des choses à régler, mais je veux que tu me remplisses de ta joie. Soyez pleinement remplis de cette joie pour cette semaine. Amen.